protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Peut-être avez-vous suivi la nouvelle émission de Verte et pas mûre sur votre radio préférée, diffusée les troisièmes vendredis du mois à 13h20. Aujourd'hui, c'est l'occasion, un protestant peut en cacher un autre, l'occasion de découvrir l'animatrice et productrice de cette émission, Manon Mouret. Alors, bonjour Manon.
Bonjour.
Merci de venir dévoiler votre parcours. Alors, votre parcours qui est double, puisque vous êtes citoyenne préoccupée par la situation écologique de notre monde, c'est la raison de votre émission, mais vous avez aussi un parcours de chrétienne évangélique. Alors, on va voir tout ça d'abord. Alors, peut-être commencer, puisque nous sommes dans un protestant peut en cacher un autre, sur votre parcours de chrétienne. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, comment vous êtes devenue chrétienne, si vous l'avez toujours été ou si c'est une conversion?
Oui, merci Yolande pour cette question. Donc, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai toujours cru que Dieu existait, qu'il était bon. Et donc, voilà, en grandissant, je me suis posé des questions. Et puis, à l'adolescence, j'ai décidé de prendre le baptême parce que j'ai été touchée par la grâce, par le fait que Jésus m'aimait, qu'il m'avait sauvée, en fait, qu'il m'avait permis l'accès à la vie éternelle, le pardon de mes péchés. Ça m'avait touchée profondément. Et donc, du coup, j'ai décidé à ce moment-là de prendre le baptême. Mais je dirais que c'était pas la fin du chemin. Hein. C'était une étape clé. Mais ensuite, j'ai eu une autre étape qui était très importante dans ma vie de foi. C'était plus adulte. Alors que je faisais face à des difficultés personnelles, j'ai mieux compris qui était Jésus et aussi Jésus en tant que Seigneur. Et donc là, je me suis réengagée. Et je dirais que c'est à partir de 2020 que je suis pratiquante de tous les jours.
Et alors, vous avez demandé le baptême, vous étiez déjà dans une église évangélique? Vous avez toujours été dans une église évangélique?
Alors, on a pas mal bougé d'église avec ma famille, mais je pense que le courant dans lequel j'étais éduquée, c'était plutôt évangélique, oui.
D'accord. Et vous étiez d'accord avec les thèses, avec les doctrines de votre église. Est-ce que vous étiez satisfaite de votre… Au départ, apparemment, vous n'étiez pas complètement intégrée puisqu'il y a eu quand même une forme de nouvelle naissance ou de nouvelle conversion. Pourquoi, en fait, est-ce qu'il y avait une insatisfaction? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Concernant l'Église évangélique?
Oui, concernant votre rapport avec l'Église.
Oui, alors c'est quand j'ai commencé mes études, j'ai changé de ville et là j'ai fait un petit peu le tour des églises, mais je n'ai pas réussi à m'intégrer vraiment dans une communauté. Donc, je n'ai pas limité aux évangéliques, hein, j'ai fait le tour des églises protestantes en général. Et voilà, ayant d'autres intérêts le week-end, je me suis éloignée petit à petit de l'Église. Jusqu'à ce que voilà, j'ai eu des difficultés personnelles qui ont fait que j'ai tout re-questionné. J'ai re-questionné Dieu, sa bonté, etc. Et c'est dans cette phase de re-questionnement qu'ensuite je me suis engagée plus avec Dieu.
Et vous avez fait une rencontre donc avec Dieu, mais aussi avec des personnes qui vous ont aidé et qui vous ont dirigé dans une communauté.
Oui, tout à fait.
Et alors, vous pouvez nous parler de cette église dans laquelle vous êtes maintenant, pas forcément nous donner beaucoup de… Enfin, nous dire comment ça fonctionne surtout.
Alors, écoutez, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est plutôt les rassemblements du dimanche matin ou en général la vie d'église?
Moi, je suis intéressée par tout ce qui vous intéresse le plus, par tout ce qui porte sens dans votre vie. Je ne suis pas très intéressée par les formes théoriques. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça fait ressentir en vous tel type de rassemblement ou enfin ce qui vous fait bouger.
Ok, alors cette église là dans laquelle je suis maintenant, je l'ai rencontrée en visio parce que c'était lors du confinement. Ils faisaient des cultes en visio et au début de chaque culte, en attendant le début, il y avait les photos des membres, etc. Déjà, c'était chouette de voir Kitten Eglise avec des gens que j'avais déjà rencontrés sur mon parcours, qui étaient jeunes. Moi, j'étais jeune, j'avais envie de m'intégrer dans une église avec des gens qui, voilà, qui me ressemblent. Et ensuite, c'était le message en lui-même qui était vraiment porteur de sens pour moi, qui était applicable à ma vie concrète et que je trouvais vrai, réfléchi et pertinent. Voilà, ça m'a vraiment attrapée.
Et alors, ce message, puisque vous dites qu'il est pertinent, est-ce que vous pouvez nous le partager ?
Oui, alors le message qui m'a attiré dans cette église, c'était sur Jean, c'était sur la crucifixion de Jésus. En fait, en général, voilà, mon église va parler de cet évangile, donc de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui est Dieu venu sur terre en tant qu'homme pour mourir pour nos péchés en fait et nous sauver, nous rendre justes devant Dieu. Donc, après, comment ça s'applique à notre quotidien, ça se décline dans toutes les situations de la vie courante.
Et donc, pourquoi cette église ? Parce que l'évangile de Jean, il est partout dans toutes les églises. Alors, c'est la façon de faire résonner le message. Est-ce que il y a une façon qui vous plaisait plus ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça fait pchit avec une communauté ? Par rapport à un message qui est le même dans toutes les communautés chrétiennes.
Oui, j'aimerais dire le Saint-Esprit, hein, parce que, en tout cas, ça a fait appel à mes émotions, je pense, et aussi à tout ce qui est repentance, reconnaissance et joie de se trouver pardonné par Jésus. Et je l'ai vécu dans différents types d'églises, mais dans celle-là, ça a matché de suite.
Et alors, donc, le message évangélique, donc, il vous plaît. C'est une église évangélique de quelle tendance ? Par rapport, je ne parle pas au niveau théologique, mais au niveau sociologique. Vous avez parlé que c'était jeune. Comment il se situe au niveau des grandes questions de la société ?
Par exemple, c'est une église qui, oui, en effet, est jeune, bien que maintenant, c'est quelques années et on vieillit tous, mais elle est aussi très diverse en termes de nationalité. On a vraiment des personnes qui viennent de tous les continents. Après, je pense qu'elle est aussi assez... il y a beaucoup de cadres ou de métiers avec des études qui vont représenter l'église. Disons que... ceux qui vont prêcher, souvent ils ont fait des études de théologie, beaucoup d'études, et ça va être un petit peu un accès intellectuel quand même.
Et au niveau au niveau sociologique, au niveau des débats qui animent notre société, alors d'après ce que vous dites, je suppose qu'ils sont très intégrés sur l'accueil des étrangers, puisque vous parlez de plusieurs nationalités. Vous allez nous le dire, nous confirmer ou infirmer. Comment ils se situent par rapport aux grands problèmes actuels, les problèmes de mariage pour tous, le problème de la transformation des genres, etc. Comment ils se situent ? Est-ce que pour vous, ça peut être un problème par rapport à vos convictions personnelles ?
Ah, c'est intéressant parce que, en effet, quand je suis arrivée dans cette église, c'était un problème pour moi qu'il n'y ait pas de femmes parmi les anciens ou les pasteurs, donc parmi les responsables. Donc, de ce côté-là, on pourrait dire qu'elle est assez conservatrice. Et au fur et à mesure que je suis restée quand même et que je grandis, il se trouve que maintenant, je suis plutôt d'accord avec leur positionnement. Ça c'est quelque chose qui n'est pas... différent dans les églises protestantes, mais dans la nôtre, en tout cas, les responsables sont masculins, sont des hommes.
Et sur les problèmes, donc de société, pour les paroissiens, est-ce que vous êtes toujours en accord ou est-ce que vous arrivez à relativiser des positions qui pourraient ne pas être les vôtres ou qui sont les vôtres, je ne sais pas.
Alors, quand on devient membre de cette église, on a une sorte de charte avec les positions de l'église. Donc, il y a les positions qui sont très importantes pour l'église, pour lesquelles si on n'est pas d'accord avec, on peut pas être membre, et d'autres positions qui sont moins importantes. Je pense que les positions sociétales dont vous parlez sont plutôt dans les positions moins importante, dans le sens où même si on est en désaccord, tant qu'on est d'accord avec ce qu'ils considèrent comme la base de leur enseignement, donc ça va être surtout porté sur l'évangile, le message enfin voilà, qui est Jésus, etc. Dans ce cas, on peut tout à fait être admis, on peut discuter de ces choses-là entre nous, il n'y a pas de souci.
D'accord. Et alors, dans les positions importantes, donc c'est plutôt des positions doctrinales, des positions protestantes traditionnelles, le salut par la foi, par la grâce de Dieu, l'importance de la Bible, etc.
Oui, c'est ça. J'ai pas révisé, mais de mémoire, c'est ça.
C'est une église qui se dit protestante ou qui se dit uniquement chrétienne?
Protestante évangélique.
D'accord, protestante évangélique. Et alors, vous êtes donc écologique ou écologiste, je ne sais pas comment vous qualifiez, mais vous allez nous le dire, et vous venez d'un milieu plutôt radical. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'écologie radicale?
C'est-à-dire que on a un point de vue qui va être radical. Voilà, on va vouloir appliquer l'écologie dans tous les domaines de notre vie, l'imposer un petit peu, en tout cas l'attendre des autres aussi, parce que l'écologie c'est quelque chose qui, voilà, si c'est pas global, le changement, on va pas aller bien loin. Du coup, on va sensibiliser notre entourage, on va essayer de les faire changer. En même temps que nous, on change et on va faire tout passer au crible de l'écologie pour être de mieux en mieux, en fait, en termes d'impact sur l'environnement, qui soit de plus en plus faible.
Et alors, donc, c'est à ce niveau-là que vous qualifiez de radical, c'est-à-dire que ça prend finalement une très grande partie de votre vie et de celle de votre entourage. Mais est-ce que vous étiez dans des groupes qui menaient des actions, disons, plus musclées?
J'ai pas fait d'action violente, mais les manifestations, oui, alors sans violence, mais voilà, avec un fort, en tout cas une conviction aussi politique, sociétale, etc. Rien de violent, toujours. Toujours pacifique.
Bon, d'accord. Et alors, pourquoi les deux engagements, vous m'aviez dit que c'était rentré en conflit, enfin, qu'il y avait eu quand même une redistribution des cartes au niveau de vos engagements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Parce que finalement, en tout cas dans mon vécu personnel, quand j'ai été dans l'écologie, quand l'écologie prenait le dessus, il y avait l'amour qui prenait le dessous, voilà, entre guillemets. Disons que ça amène un stress sur le futur, sur l'avenir, qui va faire qu'en fait on va vouloir que les choses changent. Au point où on peut briser des relations ou en tout cas faire du forçage dans des relations pour que les gens ils vont changer aussi. Donc on sait que c'est pour leur bien, pour le bien de l'humanité, etc. Et on veut l'imposer avec ce stress, cette notion d'injustice qui est vraie, mais en fait on peut pas changer l'autre. Et je pense qu'il y avait ça dans ma démarche écologique.
Et alors, comment vous avez pu résoudre, puisque vous prenez conscience que vous êtes peut-être sur un chemin qui n'est pas tout à fait le bon, puisque vous parlez que l'amour prend le dessous, finalement, enfin, arrive en dessous, comment vous avez résolu les choses? Vous avez demandé de l'aide auprès de pasteurs ou de paroissiens ou de gens
Pas du tout. Alors, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où c'est un pasteur qui a fait le lien pour moi entre l'écologie et l'évangile. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis revenue vers l'évangile. Donc, j'étais déjà dans l'écologie plutôt radicale. Et l'évangile est réapparu intéressant, en tout cas acceptable, entendable, quand on m'a fait le lien entre l'écologie et l'évangile, dans le sens où Dieu non plus ne veut pas que la planète soit détruite, qu'on soit en train de détruire l'environnement d'autres personnes, etc. Donc c'était plutôt ma foi chrétienne. En fait, c'est plutôt en étudiant la Bible et en ayant des circonstances personnelles qui m'ont fait prendre du recul. Donc un accident, voilà, enfin au niveau de la santé, un accident au niveau des finances, des choses comme ça qui font qu'en fait je ne peux pas être écologiste radical tout en étant comment dire sage dans une sagesse chrétienne ou dans l'amour chrétien.
Et alors, quand vous dites que Dieu ne veut pas que on gaspille la terre ou qu'on abîme la création, comment ça s'est manifesté chez vous? Comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez ressenti, ça?
Eh bien, c'est vrai que dans les commandements de Dieu, de Jésus, Jésus nous dit que dans les plus grands commandements, il y a le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et en fait, quand on aime Dieu, quand on aime un père, quand on aime un créateur, on ne va pas détruire ce qu'il a créé. Donc déjà, il y a cette notion de respecter sa création et respecter aussi la création humaine. Donc quand on prend conscience de notre impact sur les êtres humains, quand on pollue, quand on émet des gaz à effet de serre, etc., et ben, on sait qu'on a un impact réel sur d'autres personnes. Donc on a envie de, si on veut les aimer, on a envie de baisser cet impact et leur permettre d'avoir un quotidien plus clément. Je pense notamment aux conditions météorologiques extrêmes, etc.
Quand vous m'avez cité Romains 8, 20, verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Donc, vous voyez l'œuvre, celui qui a soumis la création à la vanité, je suppose que c'est soit Satan, soit l'avidité des hommes, soit les deux. Comment vous voyez celui qui nous pousse finalement à la vanité? C'est Romains 8, verset 20.
Et oui, dans ce contexte, il me semble qu'après on compare, on compare Adam et Jésus. Le fait que Adam, il est péché, il est le péché originel. En fait, le choix de l'homme à ce moment-là, dans le début de la Genèse, de ne pas obéir à Dieu. Et en fait, ça a entraîné le péché. Et ce qui est intéressant aussi quand on se penche un peu sur le sujet, c'est que parmi les écologistes, ou en tout cas ceux qui vont avoir des réflexions là-dessus, qui sont pas chrétiens, ils vont voir qu'il y a un problème spirituel derrière le problème environnemental. Parce qu'en fait, le problème, c'est le problème de l'égoïsme, le problème de vouloir le confort pour nous, mais pas pour les autres. Et donc, tout ce qui va avec. Et donc, moi, je pense que la crise environnementale est très liée à notre péché, à notre égoïsme, je dirais.
Ben, c'est ce qui m'a intéressé justement en discutant avec vous, c'est cette idée de péché originel dans le non-respect de la création. Finalement, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante qui dépassait un peu les traditionnels, il faut respecter la création, etc. L'idée que c'est finalement le péché originel qui nous pousse à la vanité, aussi au fait de toujours vouloir plus et donc au gaspillage des ressources, etc. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis il y a le verset qui continue avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, Romains 8, 21, là, il y a l'espérance. Donc, ça enlève peut-être l'idée du désespoir qu'on peut avoir quand on regarde notre terre.
Oui, tout à fait. C'est fondamental pour moi, en tout cas, parce que c'est vrai que ça peut être un sujet d'anxiété énorme, en fait, l'écologie, aussi pour les jeunes générations qui se voient à long terme avoir des soucis qu'ils ne pourront pas maîtriser. L'espérance, l'idée du retour de Christ qui va permettre de résoudre tout ça, résoudre non seulement notre péché, mais réhabiliter la terre dans un ordre comme l'ordre créationnel, en fait, où tout est beau et tout va bien. Ça, c'est quelque chose sur lequel je veux m'accrocher, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de démotivation en s'appuyant justement sur cette espérance, en disant Jésus va revenir et il va régler tout, donc est-ce que vous n'avez pas peur que les gens se disent alors à ce moment-là on n'a pas besoin de se bouger, on n'a pas besoin de faire des efforts, on n'a pas besoin de trier nos déchets? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque?
Je pense que c'est un petit peu comme pour le péché, sans parler de l'environnement. En fait, on se dit dans tous les cas je suis pardonnée, donc je peux faire n'importe quoi. Peut-être, il y en a qui se disent ça. En tout cas, on n'est pas appelé à vivre selon la volonté de Dieu pour être pour être pardonné, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est on croit en la grâce, on salue par la foi, et c'est grâce à la foi, grâce à Dieu qu'on va faire des bonnes œuvres. Et en fait, dans les bonnes œuvres, on peut mettre les bonnes œuvres environnementales.
C'est effectivement très, comment dirais-je moi, c'est très convaincant ce que vous dites. Et alors, on va revenir sur les communautés protestantes. Donc, vous avez eu vous avez eu des contacts avec les communautés protestantes, je vais y arriver, réformées aussi, évangéliques, et vous avez eu des contacts par rapport à l'écologie. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des églises qui étaient plus proches de l'écologie que d'autres, ou est-ce que des tendances sont franchement, je dirais pas hostiles, mais indifférentes à l'écologie?
Oui, alors j'ai eu la chance de travailler avec l'association chrétienne pour l'environnement qui s'appelle Arocha, dans laquelle voilà on visait à sensibiliser les chrétiens, en général. Donc c'était peut-être un peu plus axé sur les protestants, mais il y avait aussi voilà l'Église catholique qui a déjà un petit peu son système d'action. Avec l'Église verte, etc. En tout cas, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place plus chez les protestants réformés que chez les protestants évangéliques. Il y a un petit décalage de, je ne sais pas de combien d'années, mais en tout cas, les protestants réformés ont déjà commencé à intégrer ces sujets-là, j'ai l'impression, par rapport aux évangéliques.
Alors, c'est un peu vrai, en tout cas pour Montpellier, puisqu'il y a eu le groupe qui s'appelait « Dieu est-il écolo ?», qui d'ailleurs diffusait sur notre radio jusqu'à l'année dernière. Là, pour des raisons diverses, cette émission a cessé, mais nous avons parallèlement à celle que vous menez, nous avons une autre émission écolo qui s'appelle « Entre humus et souffle ». Ou entre souffle et humus, je ne sais plus. Enfin, le pasteur Didier Fievé qui l'amène, qui l'anime, me pardonnera de d'écorcher un peu le titre. Mais enfin, on en reparlera à l'antenne. Donc, y a effectivement ce souci qui est assez fort dans les communautés réformées. Et alors, il y a un manque au niveau évangélique. À votre avis, pourquoi ce manque? Est-ce que, là je vous pose peut-être une colle, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont trop axés sur la parole de Dieu et qu'ils ne voient pas le reste du monde? Je vous demande votre avis, c'est pas forcément un avis scientifique, mais votre ressenti, puisque dans cette émission, on n'a pas de prétention à la vérité statistique, on donne son avis.
Oui, en effet, j'ai pas aujourd'hui un regard assez omniscient pour voir tout ça, mais honnêtement je ne sais pas, et je trouve ça triste d'ailleurs que ce soit pas assez mis en avant. Je pense qu'en fait ça va faire partie des sujets que les uns et les autres, en tout cas dans mon église, les uns et les autres vont avancer là-dessus, mais individuellement ça, on va pouvoir en parler entre nous, mais c'est pas non plus quelque chose qui revient régulièrement dans nos encouragements à la vie de piété, par exemple. Voilà, on va plus parler de l'action sociale pour l'instant que de l'action écologique, même si les deux sont liés. Mais
il n'y a pas d'hostilité.
Il peut y avoir d'hostilité. Je pense qu'elle est de plus en plus rare, je l'espère en tout cas. Oui, c'est déjà arrivé, oui, de rencontrer des chrétiens hostiles à tout ça. Bah, justement, ce que vous disiez, le fait que de toute façon, Dieu il va restaurer la terre, Jésus, en revenant. Le fait qu'il y a d'autres préoccupations aujourd'hui, malheureusement, ça peut arriver, oui.
Alors, il nous reste quelques minutes, on va terminer sur votre émission « Verte et pas mûre ». Alors d'abord, pourquoi le titre ?
Alors, j'aime bien les jeux de mots et j'ai l'impression que la radio aime bien aussi les jeux de mots. Donc, j'ai cherché un jeu de mots en lien avec l'écologie. J'aimais bien cette expression parce que je trouve qu'elle véhicule de l'humilité. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. véhiculer de l'humilité, voilà, par rapport à ces sujets-là, à l'écologie, mais aussi par rapport à la marche chrétienne. Donc, pour moi, ça va faire partie de notre marche chrétienne de prendre en compte ces sujets, justement, de faire des bonnes œuvres dans ce domaine-là. Et donc du coup, je compte parler de tout ça, interroger des personnes qui sont dans des démarches d'amélioration, soit écologique, soit chrétienne, soit les deux, et justement, faire un point là où on en est, qu'est-ce qu'on a réfléchi, et voir comment ça peut s'articuler aussi avec, avec la bonne nouvelle de Jésus et l'Évangile.
Alors, votre problématique, bon, vous venez de commencer à la définir, ou plutôt votre message, ça va être quoi finalement?
Alors, je vais essayer de, parce que pour l'instant, quand on enregistre, je n'ai pas encore fait mon premier enregistrement, mais l'idée derrière, c'est de prendre un sujet en lien avec l'écologie, l'environnement, le changement climatique, de voir comment on le comprend aujourd'hui avec l'invité qui sera là, et de faire le lien justement avec cet évangile, donc cette partie de chute, de péché originel, de en quoi est-ce que dans ce thème-là, on voit en fait l'humain, le Satan, vous disiez, voilà, le péché, et en quoi aussi on peut avoir l'espérance que Jésus il va intervenir, qu'il est déjà intervenu, et comment voilà on peut avoir cette restauration en fait dans ce sujet-là. J'espère que c'est à peu près clair. Avec des exemples, ce sera mieux, mais j'ai pas envie non plus de devancer sur mes prochaines émissions.
D'accord. Est-ce qu'il y aura des propositions concrètes ou enfin bon, c'est peut-être un peu tôt pour le dire.
Moi, l'idée, c'est d'interroger quelqu'un qui est déjà en cheminement, donc qui va faire des actions déjà dans son quotidien, donc ça peut inspirer d'autres. Mais en tout cas, souvent, les personnes que j'interroge, je sais pas ce qu'elles m'ont inspiré ou elles m'inspirent actuellement. Et oui, donc du coup, il y aura des propositions concrètes, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup Manon Mouret. Donc, je rappelle votre émission qui a déjà commencé, donc « Vertes et pas mûres », diffusée les troisièmes vendredis du mois à 13h20. Alors, merci beaucoup. Et puis, je remercie nos auditeurs de leur fidélité et je leur donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.
Merci Yolande, à bientôt.
Un protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.